bienvenue à cet épisode des Prods, un balado de la Fédération de l'UPA de Lanaudière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Je rencontre aujourd'hui Catherine Lessard, directrice économie, politique et recherche pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec, et Noémie Blanchette-Forget, conseillère au maillage technologique au Living Lab Lanaudière. En compagnie également de Pascal Forêt, producteur maraîcher de Saint-Jacques, on discute d'innovation agricole.
T'sais, les changements climatiques, ça amène des enjeux et des problèmes qui n'étaient pas là avant, comme par exemple la sécheresse ou encore des maladies plus graves qu'auparavant, des nouveaux ravageurs. Puis les producteurs vont avoir besoin de solutions pour tout ça, leur permettre aussi de diminuer leurs besoins en main-d'œuvre, augmenter leur rendement pour utiliser moins d'intrants aussi, et réduire l'empreinte écologique. C'est toutes des choses qui vont être recherchées là, quand on parle d'innovation puis pour lesquelles il nous faut des solutions.
Donc, Catherine, Noémie, Pascal, merci d'être avec moi ce matin pour cet épisode qui va parler d'innovation. Justement, Catherine, dans le cadre de ton rôle à l'Association des producteurs maraîchers du Québec, tu constates quotidiennement les besoins puis les enjeux des producteurs en innovation agricole. Qu'est-ce qui ressort le plus? Puis, elles sont où les principales problématiques?
Ben, en fait, je reviendrai un peu sur c'est quoi l'innovation, hein, parce que c'est un gros mot, là, on en parle, mais en quoi ça consiste? L'innovation, à mon avis, puis c'est ma propre définition personnelle, ben, c'est de développer puis d'utiliser des techniques et puis des outils qui sont nouveaux puis qui n'étaient pas utilisés avant. Ouais. Donc, c'est ça l'innovation, d'essayer d'arriver avec des nouvelles choses. Puis, l'innovation va offrir des solutions aux nombreux problèmes qui sont, dans notre cas, là, vécus par les producteurs maraîchers, qui soient là depuis longtemps. Dans certains cas, c'est des problématiques qui sont vécues sur les entreprises depuis toujours. Puis, dans d'autres cas, bien, c'est des nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux pour lesquels il faut des solutions. Fait que je dirais que les principaux besoins sont surtout liés à l'accroissement de la compétitivité économique des entreprises, parce que les entreprises doivent demeurer rentables pour poursuivre leurs activités. Puis aussi, ben, tout ce qui touche au changement climatique et puis à l'environnement. C'est aussi des enjeux qui sont majeurs là, en innovation. Tu sais, les changements climatiques, ça amène des enjeux puis des problèmes qui n'étaient pas là avant, comme par exemple la sécheresse ou encore des maladies plus graves qu'auparavant, des nouveaux ravageurs. Puis les producteurs vont avoir besoin de solutions pour tout ça, leur permettre aussi de diminuer leurs besoins en main-d'œuvre, augmenter leur rendement pour utiliser moins d'intrants aussi, et réduire l'empreinte écologique. C'est toutes des choses qui vont être recherchées là, quand on parle d'innovation puis pour lesquelles il nous faut des solutions. En ce moment, là, je peux donner des exemples très précis. On travaille, puis je vais en reparler peut-être un peu plus tard, là, mais d'un projet pour augmenter la mécanisation des entreprises, pour justement réduire les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Et puis aussi, on travaille sur des projets pour développer des cultivars maraîchers qui sont résistants aux maladies qu'on voit apparaître, la sécheresse ou encore des nouvelles maladies. Fait que pour moi, c'est ça, changement climatique, compétitivité, puis s'assurer qu'on a des solutions appropriées.
Tu sais, je parlais par exemple de nos essais de cultivars ou autres. Il y en a plein là, des méthodes agronomiques à diffuser puis à connaître. Je pense qu'un des défis qu'on a cependant, c'est que les producteurs sont dans le champ, ils font leurs affaires, puis tu sais, ça prend beaucoup de temps aussi pour s'informer, hein, sur tout ce qui existe. Puis ensuite, il faut les tester. Puis il y a un autre frein dont on parle souvent, c'est qu'il y a juste une saison par année. Tu sais, fait que si tu manques ton coup, ben tu le manques puis pour longtemps là, tu sais, c'est juste l'année prochaine que tu peux faire les choses différemment puis te reprendre. Alors je pense que c'est l'idée d'améliorer le transfert, s'assurer que les résultats de recherche puis tu sais les nouvelles façons de faire arrivent jusqu'aux producteurs, puis aussi essayer de les accompagner pour faire ça sur des plus petites surfaces ou les tester peu à peu puis agrandir puis essayer d'arranger les choses. Mais tout ça, ça prend de l'accompagnement, tu sais, ça prend des conseillers qui vont être là pour leur parler de qui existe, puis aussi de mettre en place des tests. Mais ouais, je pense que ça passe beaucoup par ça, mais c'est important, là, c'est essentiel, là, l'innovation agronomique aussi.
Puis justement, pourquoi on parle autant d'innovation? T'sais, pourquoi est-ce que c'est si important pour les producteurs aujourd'hui?
Bien, ma réponse est vraiment très simple à ta question. L'innovation, c'est essentiel en production maraîchère et horticole. On peut pas s'en sauver sans innovation. Pourquoi? Bien, parce que le monde change constamment. T'sais, l'environnement va évoluer, on n'a pas le choix de s'adapter par l'innovation. Puis quand je parle d'environnement, mais c'est à la fois l'environnement physique, là, mais aussi l'environnement d'affaires. Si on a un nouveau ravageur, par exemple, qui arrive, ou encore si on perd l'accès à un produit phytosanitaire, il faut des solutions pour pouvoir continuer à produire. Puis ça, bien, ça passe nécessairement par l'innovation. Puis de la même façon, s'il y a des producteurs à l'étranger qui produisent à plus bas coût, les producteurs vont essayer de trouver des méthodes plus efficaces pour être en mesure de les compétitionner puis arriver avec des meilleurs prix. À l'échelle individuelle aussi, hein, les entreprises ont un incitatif à innover, à produire toujours mieux pour se démarquer des autres producteurs, puis offrir par exemple des produits différents, utiliser des techniques différentes de production aussi. Et puis, si les consommateurs demandent des nouveaux légumes, ça arrive, hein, par exemple, qu'il y a des légumes à la mode et tout, et ouais. Puis il faut être en mesure de les produire. Puis ça passe par l'innovation, parce qu'il faut des techniques, puis il faut aussi que les producteurs les mettent en place. Donc, tout ça pour dire que le développement du secteur horticole, ça passe nécessairement par l'innovation, puis que si on ne l'a pas, bien, ça stagne, puis on ne va pas de l'avant. On se fait dépasser par les compétiteurs, puis aussi par le climat qui change, puis qu'on n'est pas capable de suivre l'évolution. Fait qu'il faut garder un rythme d'innovation rapide pour jamais être à la traîne.
Définitivement, puis ça, c'est le côté maraîcher, horticole, mais ça touche aussi toutes les productions au niveau de l'agriculture. Puis Noémie, de ton côté, tu es conseillère au maillage technologique pour un projet qui est régional, le Living Lamb Lanaudière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, puis comment vous accompagnez les producteurs?
Oui, certainement. Dans le fond, le Living Lab, c'est un peu comme un service de recherche et développement qui est décentralisé de l'entreprise. Donc, on a des entreprises qui nous contactent puis qui ont un enjeu spécifique. Prenons, par exemple, le manque de main-d'œuvre, qui souhaiteraient avoir une solution technologique, mais qui savent pas trop où la trouver, qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour leur entreprise. Fait que nous, dans le fond, on va à la recherche de, généralement, c'est des startups, mais ça peut être aussi des entreprises déjà existantes, bien assez grosses, ou des centres de recherche qui sont en développement d'une solution technologique qui répond à cet enjeu-là. Par exemple, si un producteur voudrait avoir un robot pour désherber ses champs, ben on va essayer de trouver une solution en mode prototypage parce que ça nous permet d'établir une phase de test. Donc, on amène l'entreprise qui développe la technologie mais qui n'a pas encore commercialisé à essayer, exemple, un robot qui désherbe dans le champ du producteur. Donc, ça permet au producteur d'essayer une innovation technologique sans avoir à l'acheter. On dérisque l'innovation. Puis, en même temps, pour l'entreprise qui développe le robot, ça lui permet d'avoir un cas en conditions réelles où ils peuvent voir, ben le robot, finalement, il fonctionne peut-être pas si bien que ça dans des terres glaiseuses qui sont mouillées ou dans des conditions climatiques qu'ils n'avaient pas pu tester en laboratoire. Fait que c'est vraiment une agence de rencontre entre des innovateurs et des producteurs ou des entreprises qui recherchent des solutions.
Puis, c'est quoi les objectifs du Living Lab? Pourquoi c'est important pour l'organisation d'outiller les entrepreneurs de Lanaudière en termes d'innovation?
Dans le fond, le but ultime du Living Lab, c'est de faire en sorte que les entreprises de Lanaudière deviennent plus performantes par l'entremise de nouvelles technologies. Quand on fait un match, un mariage entre les innovateurs puis les entreprises, c'est souvent la première fois que, par exemple, le producteur va tester une nouvelle technologie ou va avoir ce rôle-là là, d'utiliser une technologie qui n'est pas encore sur le marché. Puis ça peut être épeurant, tandis que nous, on est là pour faire en sorte que le mariage est cadré, le test, et on a déjà établi combien de temps on va tester la technologie pendant la récolte, par exemple, donc juste sur une partie du champ, pour faire en sorte que ça fait moins peur après ça pour le producteur de tester des nouvelles technologies sans qu'on soit toujours là. Donc, c'est vraiment une première expérimentation d'innovation technologique encadrée et rassurante.
Je peux faire du pouce un peu sur ce qui a été mentionné. Là. C'est super intéressant parce que le risque, c'est vraiment un des facteurs majeurs pour pas adopter une nouvelle innovation puis pas aussi régler un problème. Donc, en diminuant le risque, bien, nécessairement, le producteur va être plus en confiance puis il va être intéressé à aller de l'avant puis à l'adopter. Donc, c'est très intéressant là, comme approche.
Oui, puis tu sais, ça touche pas juste l'agriculture. Là, aujourd'hui, c'est normal qu'on fasse un focus là-dessus, mais le constat, c'est que les entreprises de Lanaudière ont une crainte souvent à employer des nouvelles technologies, donc autant dans le secteur agricole que dans les autres secteurs. Puis c'est pour ça qu'on est là pour accompagner vraiment là, dans les tests technologiques puis être
on va à la rencontre des startups pour les filtrer aussi. Parce que ça arrive aussi des entreprises qui vont chercher une technologie qui peut répondre à leur enjeu. Ils vont voir sur le site web d'une entreprise qui développe la technologie, puis ont l'impression que la technologie est mature, puis qu'ils peuvent juste en faire l'acquisition, puis ça va bien fonctionner dans le champ. Puis finalement, ben la technologie n'était pas si adaptée que ça à leurs besoins, n'était pas si achevée que ça. Fait que nous, on est là un peu pour filtrer, puis amener des technologies qui sont... S'ils sont en mode prototypage, bien au moins c'est connu puis c'est compris. Il n'y a pas de surprise.
Puis justement, Pascal, de ton côté, parle-nous un peu de ta production puis pourquoi c'est important pour toi d'innover dans ton entreprise agricole?
Ben, en grande partie, chez nous, on produit des légumes asiatiques. Et puis, l'innovation, c'est sûr que là, on parle de rentabilité, on parle de réduction de temps de travail, le problème de main-d'œuvre qui nous touche tous. Moi, je pense que ce qu'on trouve vraiment important chez nous, c'est d'être le plus efficace possible à 100%. Vraiment maximiser autant les populations par mètre carré, puis vraiment s'assurer qu'on touche aux légumes qu'une seule fois. On récolte au champ, c'est impacté au champ, c'est palettisé au champ. C'est jamais repris. Donc, là-dedans, on est vraiment très efficace, ce qui nous permet maintenant d'avoir des coûts de revient le plus bas possible. Mais le but, c'est vraiment une rentabilité à toute épreuve, en fait, là. C'est le but visé.
Puis, c'est quoi les innovations que tu as implantées sur ta ferme jusqu'à maintenant? T'as-tu des exemples?
Des hautes densités de population qu'on faisait pas avant. On a comme augmenté de peut-être 50% la population. En rentrée, même, on regarde peut-être pour des rangs quadruples sur les mêmes billons. Pour encore peut-être augmenter, puis le sartelage de précision, là, vraiment tout ce qui est outils GPS. C'est ce qu'on sert depuis presque 10 ans, je pense. Ça, je pense que c'est important de toujours garder le focus là-dessus. Tout ce qui est désherbage, c'est sûr qu'on n'a pas de robot encore, peut-être faire des essais. Mais encore là, les trucs à 200-300 000 $, moi, avant de faire un chèque, j'ai tendance à vouloir les essayer là, avant. Puis encore là, la journée où ces trucs-là vont... buggy, vont faire défaut. Mm-hmm. Généralement, les fabricants ou les distributeurs, peut-être les distributeurs sont locaux, les fabricants sont internationaux, puis là, il y a des fuseaux horaires dans la vie. Mais là, on se fait dire que oui, c'est pas si pire, mais quand ça presse, pas si pire, puis là, si jamais tu contremandes tes travailleurs, qui d'office aurait fait ce travail-là pour remplacer par un robot, puis le robot fonctionne pas? Là, t'es pas bien barré. Donc, c'est pour ça que je pense que là, il y a une période là, qu'il y en a qui utilisent, malgré qu'ils ont beaucoup de travailleurs étrangers, on en a visité une ferme la semaine dernière, justement, à Sherrington. Puis, ils ont plusieurs travailleurs. Il y a des robots. Ils ont 3-4 sortes de robots. Et là, ils sont encore en essai. Ils vont bien, mais c'est sûr que c'est ce qui met gros le frein au changement.
Ouais, puis innover, c'est aussi apprendre, hein. Tu sais, c'est s'améliorer constamment, puis aussi prendre des risques. On l'a mentionné, mais être dans se familiariser peu à peu avec cette nouvelle chose là qu'on met en place. Puis c'est important l'accompagnement. Je pense que tu l'as mentionné là, d'avoir des gens qui sont capables de t'aider à cheminer là, à travers.
Je pense en même temps, le danger là-dedans, c'est comme disait les startups. Là, il y en avait un l'an passé, un startup qui nous avait été offert pour essayer. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, le start-up, parce que là, il n'y a plus d'argent. Fait que là, tu as fait l'achat d'une machine à 3 millions, ils n'ont plus d'argent.
Fait qu'il n'y a pas personne qui fait l'espèce de service après-vente
C'est mort dans l'œuf.
Mais ces innovations-là, Pascal, t'apportent quoi comme bénéfice actuellement?
Comme je te disais tantôt, vraiment, moi, c'est d'être le plus efficace. À chaque seconde qu'on emploie des gens, il faut qu'ils soient le plus productif possible, le plus court laps de temps pour faire le travail. On a une équipe de travail qui est maximisée là, avec nos travailleurs étrangers. Et puis, j'aurais 2 personnes de plus, je serais pas efficace plus. On est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire avec ces gens-là, tout en ayant un mode de travail raisonnable. C'est tout à fait correct, tant qu'à moi. Là. Et puis, c'est vraiment de baisser mes coûts. C'est ce que je veux faire. Je maximise mon acre et puis je veux vraiment baisser mes coûts. Mais en même temps, on est limité dans ce qu'on peut faire, là.
Puis sinon, Catherine, la PMQ a développé le projet de fonds d'innovation maraîcher. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste puis c'est quoi l'objectif?
Oui, dans le fond, ça part de l'idée que pour innover, il faut avoir des connaissances, il faut de la recherche, puis il faut des choses qui sont faites à l'amont aussi. Il faut avoir des choses à mettre en place sur les entreprises.
Donc, le Fonds d'innovation maraîcher, ça vise à ce que les producteurs, tous les producteurs de légumes de champ, contribuent financièrement à la recherche dans le secteur maraîcher pour qu'on puisse avoir les moyens d'accélérer collectivement l'innovation. Donc, on a mis en place là, avec nos partenaires une chambre de coordination et développement. C'est juste la deuxième là, qui est mise en place au Québec, qui est dédiée à la recherche dans le secteur maraîcher. On est encore à mettre tout ça en place. Là. Ça ne fait que quelques mois que la chambre de coordination et développement a été créée. Mais à terme, on va avoir des fonds à investir pour l'innovation pour toutes les productions de légumes de champ. Puis, il y en a à peu près 80. Donc, les besoins sont très, très larges en innovation dans le secteur maraîcher. Parce que les solutions qu'on va trouver, par exemple, pour la carotte, ne vont pas être les mêmes du tout pour le poivron, pour la laitue ou pour la tomate, par exemple. Donc, le fonds va aussi permettre de mieux coordonner, attacher, puis transférer qu'est-ce qui se fait en recherche dans le secteur. Puis, on pense être mieux en mesure là, d'accompagner les producteurs dans la mise en place de l'innovation. Les projets vont être menés par des chercheurs puis vont être sélectionnés en fonction des priorités des producteurs eux-mêmes. Donc, on va savoir c'est quoi, on parlait au début de la question sur les besoins. On va avoir une idée très précise de quels sont les besoins en innovation pour les différents légumes de champ, pour les différentes tailles. Puis, on va être en mesure de transmettre ça aux chercheurs pour s'assurer que la recherche traite de ce qu'on a besoin. Puis qu'ensuite, bien, on peut aider aussi au transfert puis à la diffusion. On sent un réel intérêt là, pour le projet. Les gens nous en parlent beaucoup. On a hâte de mettre ça en place puis de commencer à financer là, des projets de recherche dans le secteur maraîcher parce qu'il y a vraiment un manque présentement. Il s'en fait pas assez. Puis on le sent aussi là, dans la rapidité d'innovation qu'on est capable à mettre en place.
Bien, surtout avec des situations comme en ce moment là, où on voit l'augmentation des coûts des intrants puis de oui. tout ce qui vient avec. Là, c'est sûr que Pascal en parlait tantôt, le diminuer le plus possible les coûts, c'est vraiment le nerf de la guerre, si on veut. Puis ça passe principalement par l'innovation, là, j'imagine.
Exactement.
Quand tu parlais d'inclure là, des chercheurs, en fait, là, est-ce que ça, ils vont tous provenir d'un même centre de recherche ou c'est multi-institution?
C'est multi-institution. L'idée, c'est qu'il y en a, il y a de la très belle recherche qui se fait présentement dans le secteur maraîcher au Québec. Puis on va fonctionner par appel à projet. Donc à ce moment-là, tous les centres ou les organisations, cégep, peu importe, même dans certains cas, des associations de producteurs là, qui ont des chercheurs qui travaillent pour eux, vont pouvoir passer par le fond pour aller chercher la partie industrie du financement. Parce que c'est beaucoup ça le défi. Hein? Souvent, il y a des projets de recherche qui peuvent être financés, mais il faut mettre de l'argent des producteurs. Puis, ben le fond va nous permettre de facilement mettre la part des producteurs là, pour des projets de recherche. Puis à ce moment-là, aller chercher un plus gros financement, là, soit du fédéral, du provincial ou d'autres sources.
Puis de ton côté, Noémie, un producteur, on en a parlé un peu tantôt, là, mais un producteur qui cherche une solution technologique puis qui pourrait travailler avec le Living Lab, ça ressemble à quoi les étapes du processus de maillage?
Dans le fond, la première étape, c'est de déterminer avec le producteur quel enjeu il veut traiter sur son entreprise. Fait que l'idée, c'est de cerner un besoin précis. Puis après ça, le Living Lab va partir à la recherche d'entreprises ou de centres de recherche qui sont en développement d'une solution qui pourrait s'appliquer à cet enjeu-là. Puis parfois, la solution n'a pas été nécessairement réfléchie pour, par exemple, le milieu agricole. Donc, on pourrait trouver une solution qui a été développée pour le secteur industriel, mais qui finalement répondrait à l'enjeu agricole. Puis ça peut être aussi, moi, ce que j'ai vu par le passé, c'est des solutions, par exemple, pour le secteur touristique. Bien, en agrotourisme, ça fonctionnait drôlement bien. Puis, dans le fond, l'entreprise qui développait cette solution-là avait juste jamais réfléchi que sur des fermes, on peut accueillir des touristes. Donc, on fait vraiment cette recherche-là, cette qualification aussi de l'entreprise. Tantôt, Pascal, tu parlais d'une entreprise qui est... Après un an, ben la start-up, elle avait plus d'argent, puis là, on se retrouve avec une bébelle qui peut plus servir. Ben, il n'y a jamais de garantie, mais c'est sûr que c'est un peu de notre rôle de s'assurer qu'elle a une historique, cette entreprise-là. Puis oui, il y a un risque à l'innovation, mais on essaye quand même de faire en sorte que les entreprises qu'on amène, ben ils ont une certaine solidité. Mais bref, on va faire cette rencontre-là entre le producteur et le développeur de la solution technologique, puis on met en place un protocole d'entente. Donc, c'est convenu que pendant 3 mois, la solution technologique est proposée gratuitement au producteur. Il peut la tester. Et l'idéal, en fait, c'est que le producteur puisse donner des rétroactions à l'entreprise pour améliorer la solution technologique. Comme ça, à la fin des 3 mois, ben le producteur peut dire « ça m'intéresse, ça a bien répondu à mon enjeu » ou « non, dans le fond, c'était pas la bonne solution ». Puis inversement, l'entreprise qui développe la technologie, bien, lui, il a un cas, une espèce de vitrine technologique, puis il y a eu une bonification de la technologie par les rétroactions du producteur. Fait qu'à la fin de ce maillage-là, ça revient aux deux parties de voir est-ce qu'on va de l'avant, puis par exemple, le producteur achète la solution, ou bien si on passe à autre chose. Là, à partir de ce moment-là, le Living Lab, il se retire.
Puis, on le sait, là, il y a un gros enjeu au niveau des producteurs agricoles pour le côté administratif, souvent des projets. Fait que vous, de votre côté aussi, au Living Lab, vous prenez en charge tout ce côté-là de faire des rapports, faire des contacts et tout pour que le producteur puisse se concentrer sur le test puis sur sa production. Là.
Exactement. Parce qu'on le sait, là, il y a de faire des rencontres entre une entreprise qui a une solution puis une entreprise qui a un enjeu, ça, c'est pas ça qui est compliqué. C'est de faire en sorte que le test a lieu et est maintenu sur le dessus de la pile des priorités quand on sait qu'une entreprise, ça roule à chaque seconde, il faut que ça roule. Donc, nous, c'est pour ça qu'on devient comme un allié de l'entreprise parce que on est là pour s'occuper de ce qui est plate puis ce qui est... puis s'assurer que ça, au moins la phase de test va aller jusqu'au bout. Mm-hmm. Après ça, reste aux deux parties de voir s'ils veulent aller de l'avant avec d'autres choses. Mais comme ça, ben l'entreprise peut quand même continuer à se concentrer sur ses activités. Puis nous, on est en background là, pour supporter le test puis voir que les choses avancent.
Fait que ça ajoute pas une charge administrative au producteur.
Ben, c'est sûr qu'il y a un certain temps qui est nécessaire.
L'implication,
oui. C'est ça. Là, on peut pas juste dire « Voici, le robot est dans ton champ puis il va faire tes affaires. » Là, c'est sûr qu'il faut que le producteur soit conscient qu'il y a un peu de temps à mettre sur l'essayer puis donner des rétroactions. Mais ça reste quand même que on passe beaucoup d'heures à rechercher des solutions, à contacter des entreprises, à voir est-ce que votre technologie peut répondre à un besoin comme ça? Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Est-ce que vous voulez amener votre robot gratuitement aussi dans un champ? Fait que, bref, on fait toute cette recherche-là, puis ça fait en sorte que le producteur, lui, n'a pas à se casser la tête à faire ça.
Est-ce que vous avez eu des succès,
ouais,
justement, de maillage là, qui ont bien fonctionné entre le producteur et puis le développeur?
Tout à fait, oui. Par exemple, je peux en parler d'une qu'on est bien fiers, là, mais c'est la courgerie à Sainte-Élisabeth. Dans le fond, eux, ils souhaitaient accueillir, ils font de l'agrotourisme, ils voulaient accueillir des gens sur la ferme sans avoir besoin de leur parler tous, répondre à toutes les questions qui étaient souvent les mêmes. Donc, c'était pour se dégager du temps de main-d'œuvre qui était rendu rarissime. Et on les a fait rencontrer une start-up de Montréal qui développait une application. En fait, c'est des codes QR, là, comme on voit un peu partout. Mais l'innovation, c'était surtout du côté de la plateforme derrière ces codes QR-là qui permettait à la courgerie de mettre du contenu, de mettre des vidéos, de faire en sorte que les contenus étaient faciles à changer. Donc là, les visiteurs, quand ils se rendaient sur place, ben il y avait un endroit où c'était écrit « Vous avez des questions sur les sortes de courges? » Ben vous avez qu'à scanner le code QR. Puis là, ben il y a, par exemple, une vidéo qui vient expliquer les types de courges. Fait qu'on a pu réduire le nombre de questions qui étaient posées, qui étaient récurrentes, puis faire en sorte que l'expérience sur la ferme était toujours aussi agréable, puis que les employés pouvaient répondre, par exemple, à des questions qui étaient plus spécifiques. Ça permettait aussi, par exemple, de mettre des codes QR sur les produits transformés, les pots de produits transformés. Bien là, on avait une vidéo de Pascal de la courgerie qui utilise, par exemple, la moutarde dans une recette spécifique. Bref, fait que ça a permis ça. Puis la start-up, elle, développait cette technologie-là surtout pour les musées, des visites un peu dans des parcs, mais elle l'avait jamais testé dans un secteur agroalimentaire. Fait que c'était la première fois qu'elle se retrouvait, par exemple, sur des tablettes d'épicerie. Fait que ça a été une découverte pour les deux. Les deux continuent à travailler ensemble. Donc, autant Pascal a apprécié que la start-up aussi.
Puis, Catherine, de votre côté, vous avez aussi développé un tout nouveau projet qui est le réseau d'expertise en innovation agricole. Ça consiste en quoi exactement?
Bien, c'est intéressant parce que c'est un peu, je dirais, semblable au Living Lab, mais à une autre échelle. Là. Qu'est-ce qui est fait? C'est un projet récent qui avance bien, qui démarre bien. Avec la pandémie, on a constaté que nos producteurs étaient très dépendants de la main-d'œuvre, là, entre autres la main-d'œuvre étrangère qui vient sur les fermes. Puis on a constaté que s'il n'y avait pas de main-d'œuvre disponible, on serait vraiment très mal pris là, dans le secteur horticole. T'sais, la main-d'œuvre, ça représente la majeure partie des coûts de production pour plusieurs productions horticoles. Donc, entre 30 et 50 % là, des coûts de production, c'est juste la main-d'œuvre. Mm-hmm. Fait qu'on l'a mentionné, là, mais c'est un problème qui est vraiment vraiment majeur. Donc, avec nos partenaires, qui sont les associations qui représentent les producteurs de pommes, de fraises, framboises, de vignes, et puis les producteurs en serre, et aussi avec notre partenaire principal, le MAPAC, on a établi un plan d'action pour informer les producteurs des technologies qui sont disponibles sur les entreprises, les aider dans leur prise de décision pour voir ce que ça vaut la peine ou non d'adopter une certaine technologie, puis aussi faire part aux développeurs des besoins des producteurs. Parce que souvent, les développeurs, tu sais, ça se peut qu'ils disent « Ah oui, je vais faire un robot désherbeur », pour reprendre l'exemple, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi, par exemple, le nombre de variétés de mauvaises herbes dans le champ. Fait que eux autres, ils pensent, ah, ben il y a une mauvaise herbe, c'est facile, on va faire de l'intelligence artificielle pour la reconnaître, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils se rendent compte qu'il y en a 10 à 15 différentes, puis ils se disent, oh, c'est un petit peu plus compliqué qu'est-ce qu'on avait pensé. Donc, c'est vraiment important d'accompagner les développeurs là, dès le début de leur projet. Alors, on a embauché une ressource qui est ma collègue Izmir Hernandez avec l'aide financière du MAPAC et puis aussi le soutien de Zonactech avec qui on collabore de très près pour réaliser le plan d'action, le mettre en place. C'est là que le réseau est né. Ça fait maintenant quelques mois, puis on est content de voir que ça répond à un réel besoin de créer des ponts entre les producteurs et puis aussi avec les développeurs, avec les équipementiers. T'sais, ça nous permet de créer là, tout un écosystème axé sur les besoins des producteurs. Et puis, déjà, on est très sollicités. Les producteurs vont nous appeler là, pour nous poser des questions sur, par exemple, des robots là, qui existent à l'étranger, si on peut organiser, par exemple, des vitrines. On est en lien déjà avec l'Ontario pour voir aussi qu'est-ce qui est fait là-bas pour l'utilisation de robots. Et puis, les développeurs nous appellent pour avoir des rétroactions, là, beaucoup, pour les mettre en contact aussi avec des producteurs pour faire des essais dans les champs. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis, on espère pouvoir continuer dans le temps en mettant sur place un réseau des 7 technologies pour être capable de les comparer dans différentes conditions. Puis également là, aider les producteurs à partir des données qui vont avoir été collectées pour prendre les meilleures décisions possibles en mettant sur pied un outil d'aide à la décision là, pour eux.
C'est vraiment intéressant. Puis là, tu parlais de l'Ontario. Je sais aussi, le Living Lab, tu sais, on parlait de start-up de Montréal, mais ça se limite pas nécessairement au territoire ici. Là, je pense que de chacun de votre côté, ça a peut-être une propension un petit peu plus étendue que le Québec, là.
Oui, ben justement, ce matin, j'avais une rencontre avec un innovateur de France. Donc, on ratisse assez large pour pouvoir trouver la bonne solution. Là. C'est sûr que dès qu'on sort du Québec et du continent, ben là, on ajoute une petite couche de complexité, mais c'est toujours faisable. Là. On essaye de trouver la meilleure solution au monde.
Parce que justement, on le sait, là, il y en a beaucoup qui le répètent puis qui le disent là, qu'au Québec, oui, on fait de l'innovation, mais qu'ailleurs dans le monde, ils sont beaucoup plus avancés que nous ici. Puis peut-être, Pascal, justement, de ton côté, tu es assez autodidacte par rapport à ça. Là, comment est-ce que tu te tiens informé des nouvelles tendances en innovation? Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher le maximum pour ton entreprise?
Ben, c'est des abonnements, là, des trucs d'infolettes de American Vegetable Grower ou des trucs d'Europe. Je regarde à peu près tout. En permanence, là, ça m'intéresse encore autant qu'au début. Donc, c'est encore plus facile aujourd'hui, puisque là, on a accès à tout le temps, puis c'est tout le temps. La plupart du temps, je dirais, c'est gratuit. Tu n'as pas d'abonnement, quoi que ce soit. Ils t'envoient de l'info, les FIRA de ce monde. Là. Bon, ben, les expositions, puis tu as toutes les fabricants qui te permettent d'avoir un peu si ça, tu peux penser que ça pourrait fonctionner. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups. Puis là, ça prendrait vraiment une multinationale en machinerie déjà établie. Je n'ai parlé l'autre semaine à Taborticole ou quelle rencontre on avait avec Catherine. C'est vraiment ce qui empêche que les producteurs soient vraiment plus enclins à savoir qui va avoir du backup, qui va avoir des pièces, qui va avoir une facilité d'avoir des techniciens à proximité. Ça viendrait vraiment sécuriser puis asseoir la base de ces nouvelles technologies. Je pense qu'ils se valent toutes. C'est probablement tout bon. Les trucs électroniques, le deep learning, les connaissances, l'apprentissage électronique, ainsi de suite. Bien, ça, c'est universel. C'est sûr, c'est bon. Mais encore là, on est encore barré au même truc. Moi, je n'ajouterais jamais de la machinerie qui n'est pas éprouvée. Fait que là, on me demande de marcher sur la foi. Mm-hmm. C'est quelque chose que tu as pas mal plus de chances qu'elle fonctionne pas, qu'elle fonctionne. Fait que c'est comme vos voitures le matin. Là, si vous pensez qu'à chaque fois que vous tournez l'atelier, vous avez une surprise, ça vous intéresse pas de l'acheter.
Non.
Fait que là, surtout pour te retrouver plus mal pris que tu l'étais avant de l'acheter. C'est surtout là qu'on a un petit peu une réticence. Tu sais, un prix qui a un payback rapide, oui, c'est intéressant, puis il faut faire ces moves-là quand tu es en affaires. Mais du même ça, puis si t'es pas certain que ça va fonctionner, puis pas fonctionner il y a qu'un an, là, tu veux ça pour 10 ans? Fait que je pense que c'est important de rester informé, oui, mais je reviens là-dessus. Hein.
Est-ce que, Pascal, ça peut aider, parce que je comprends qu'il te faut une garantie hein, avant de mettre en place une innovation puis t'assurer que ça va fonctionner puis que ça va pas créer plus de problèmes là, à la fin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller voir justement des innovations chez un autre producteur au Québec ou à l'extérieur du Québec pour voir comment est-ce qu'il fait les choses puis apprendre sur cette base-là?
Y aller physiquement, non, plus par référence ou par des vidéos. Là. On va en Californie quand même assez régulièrement. Je dirais, autour de 2, 3, 4 ans, là, on fait un petit tour, puis on a une exposition là-bas, fait qu'on fait un petit peu des tours de champ. Moi, j'ai essayé les trucs des plantations, plant tape, ces trucs-là. Tu sais, c'est pas tout ce qui s'applique au Québec. On a de l'extrême ici, hein. En fait, température, là,
ouais.
On a un peu, tu peux avoir 3 saisons dans le même mois, là.
Oui,
ça,
c'est ça.
Ailleurs, là, c'est peut-être pas ça, là.
Non, c'est ça, c'est un des enjeux aussi des technologies qui viennent d'ailleurs, c'est que nous, on a des particularités au niveau de la température puis de l'environnement, puis c'est ce qui fait que souvent, ça s'adapte pas nécessairement ici, puis il faut le réadapter au climat, là. Fait que,
effectivement, bien, généralement, ce qui est le propre du Québec, il faut que tu sois à peu près équipé en double, compte tenu qu'il y a des années comme cette année où tu vas avoir 2 journées par semaine pour faire toutes tes interventions, parce que le restant du temps, il pleut. Là, ça fait 2 ans qu'il pleut pas. On court après l'eau, puis là, cette année, on court pas après l'eau, c'est un fait. Mais là, qu'on est hésitant, puis ça prendrait des machines 2-3 fois plus grosses que celles que tu as besoin vraiment pour faire ton travail vraiment plus rapidement. Fait que là, quand on parle de trucs à plusieurs centaines de milliers de dollars, s'il faut les doubler en capacité, bien là, ta rentabilité n'est plus là.
Puis, ce serait quoi l'innovation que tu voudrais prochainement intégrer à ta ferme? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu qui t'a allumé puis que tu aimerais peut-être éventuellement essayer?
Bien, les robots désherbeurs, je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des producteurs. Vraiment, là, ce qu'ils sont capables de faire, mais le problème est tout le temps, c'est la fiabilité et la rapidité.
Mm-hmm.
C'est là qu'on est. Des micro-machines qui, oui, vont faire le travail dans un jardin d'une résidence, oui, ça va. Mais là, tu as des dizaines d'hectares à faire puis tu veux faire ça dans 2 jours. J'ai pas ça. C'est ça pour là, ça n'existe pas. Là. Donc, ça m'intéresserait extrêmement. Pour ce qui est de la récolte, je suis pas encore convaincu. Je suis même très loin d'être convaincu que c'est probablement, ça sera peut-être après ma retraite où ça va arriver. Là, puis je n'ai pas envie de faire ça demain. Le niveau de la main humaine le remplacé, là. Si c'est des récoltes intégrales, on peut toujours s'entendre. Mais quand c'est des récoltes qui sont choisies, puis pour une passe ou 2 passes ou 3 passes de récolte, où là, je pense que là, on vient de mettre le coefficient de difficulté très élevé, puis je pense pas que la main humaine pourrait être remplacée à court terme.
Puis est-ce qu'on sait si ça se fait ailleurs ou même ailleurs dans le monde où c'est plus développé, ça c'est pas encore assez efficace?
Bien, le start-up dont j'ai fait allusion tantôt, c'en était un. Puis qui fonctionne, là, il fonctionnait, mais là il ne fonctionne plus. Là.
On a fait une étude à la PMQ là-dessus là, pour évaluer puis pour recenser c'était quoi les différentes technologies là, pour faire la récolte sélective des différents légumes. Puis en effet, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout est en développement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de technologie qui est fiable et développée pour ça. Puis ça, on a quand même regardé partout dans le monde, là, puis ça fait 1-2 ans de temps, puis quand même, on n'est pas encore arrivé à ce niveau technologique-là. Cependant, je pense que c'est quand même important de développer puis de continuer à essayer puis d'encourager les startups qui travaillent sur le développement de technologies de récolte sélective. Parce que peut-être qu'à ta retraite, Pascal, on va avoir enfin des machines qui vont être capables de le faire. T'sais. Mais faut toujours commencer quelque part. Là.
Mais le problème, il revient toujours, c'est que le startup, il marche dans une serre, il marche dans un tunnel, en plein champ, aux intempéries, à la pluie, à tout ce qui est poussière. Un laptop, là, généralement, ça ne fonctionne pas trop bien à l'extérieur. Dans un bureau, parfait, c'est l'outil de prédilection. Par contre, quand on s'en va aux intempéries puis que là, c'est pas des conditions d'humidité parfaite ou quoi que ce soit, on a vraiment des problèmes. Puis en tout cas, ben, je suis content de t'entendre, Catherine, que je suis pas à côté de la plaque, là, que moi, je vois absolument rien qui peut m'aider aujourd'hui. Je te dirais même 10 ans, d'après moi, avant qu'on ait peut-être quelque chose qui va pouvoir nous aider vraiment. Là.
On espère que ça va aller plus vite.
Mais c'est à force justement de faire des tests en champ qu'on peut développer des technologies qui finissent par bien fonctionner en champ. Je pense que c'est là l'enjeu que les startups, souvent, ils vont travailler dans un laboratoire, mais si on les met le plus possible en conditions réelles, ils sont capables d'adapter la technologie. Je suis consciente que ça prend du temps, puis peut-être que ça va être dans 10 ans, justement. Mais plus vite on les amène dans le champ, plus ils sont conscients des enjeux climatiques, de la poussière, justement, du vent, de tout ce qui peut entrer en conflit avec la technologie, puis qui fait en sorte que ça fonctionne bien dans ton labo, mais dans le champ, ça marche pas.
Puis Noémie, t'en parlais tantôt justement du fait que, oui, t'as un champ, par exemple, de pommes de terre ou peu importe, mais d'un champ à l'autre, la terre est pas nécessairement la même. Fait qu'encore là, on peut pas développer une technologie qui est propre à, par exemple, à une culture. Le sol peut être différent, la température, ce qui l'entoure aussi. Fait que c'est toujours pas de l'amélioration continue, mais oui, du test très, très précis là, d'une production à l'autre. Là.
Je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut plusieurs technologies. Il ne faut pas juste avoir, par exemple, un robot qui va tout faire là, dans certains cas. Puis dans le maraîcher, par exemple, on a des terres minérales, des terres noires. C'est pas exactement la même façon non plus pour une machine de performer là, dans l'un ou dans l'autre. Fait qu'il faut avoir une variabilité ou une offre plus grande pour que le producteur soit capable d'identifier qu'est-ce qui est le mieux pour ses conditions à lui. Il y a des sols qui sont moins drainés, dans lesquels il va y avoir des problématiques là, au niveau de la machinerie, des problèmes de compaction, puis tout ça doit être réfléchi là, quand le producteur choisit une technologie.
Un autre point peut-être, puis je ne sais pas si Pascal, tu l'as constaté ou vous les filles, mais il faut que les ressources humaines soient aptes à jouer avec ces technologies-là aussi. Là, j'imagine que ça peut être un enjeu de ce côté-là également.
Moi, je ne vois pas ça comme un problème.
Okay.
Ce que tu amènes là, ça me... J'aurais aucune crainte là, de prime abord de dire on va être capable d'utiliser ça. C'est pas ça le problème. Le problème est vraiment dans le résultat de cette machine. C'est un investissement X qui va se rattraper dans 3-4 ans. Ça, c'est sûr que tu as quand même des preuves tactiles, tu as des chiffres qui te permettent de dire que oui, ce jeu-là en vaut la chandelle. Par contre, moi je dis au niveau des désherbages, je pense que ça s'en vient assez bien. Ça, je crois à ça. Puis je vous le dis, là, je suis président du club optimiste, moi, d'habitude. Là, je suis tout le temps extrêmement positif. Quand, d'habitude, là, que je me dis « tabarouette, j'ai l'impression que ça se peut pas. » Puis plus souvent qu'autrement, c'est parce que je vois pas comment ça pourrait exister. Le truc que je parle, qui est récolté les brocolis, là, c'était vraiment beau. Là. La petite main robotisée, tout ça, le jet d'eau, toutes les quêtes, c'était vraiment beau. Là. Mais là, c'est pas la moitié vite d'un travailleur. Fait que là, ton coût de revient, il est pas là pendant tout. C'est moche à dire, c'est une superbe technologie. Là. Par contre, ben, au niveau de rentabilité, il n'est pas là. Fait que quand ça coûte plus cher que ce que ça donne, ben, la décision, c'est pas long qu'on la prend.
Puis, justement, Catherine, Noémie, est-ce qu'il y a des aides financières qui existent pour le développement puis l'implantation de technologies?
Je suis vraiment pas une experte des programmes disponibles et tout ça, là, mais c'est sûr qu'à travers le MAPAC, là, ces différents programmes, il y en a là, des programmes d'aide pour l'adoption de nouvelles technologies, que ce soit à travers PrimeVert là, ou d'autres programmes. L'enjeu, cependant, c'est quand on parle de mécanisation, c'est des machineries qui vont coûter très cher, là, plusieurs centaines de milliers de dollars, puis souvent, ben, les maximums de ces programmes-là permettent pas nécessairement de faire l'acquisition de ces technologies-là. C'est des commentaires qu'on a déjà fait au MAPAC dans le passé, mais ça existe. Puis je pense que la meilleure voie là, pour un producteur qui voudrait avoir accès au financement, ça serait de parler avec son conseiller là, du MAPAC régional pour lui expliquer son projet, puis voir de quelle façon est-ce que le financement peut l'aider.
Oui, je peux peut-être ajouter aussi, ça dépend du contexte. Il existe différentes aides si on sort un peu là, justement de juste avec le MAPAC. Mm-hmm. Là, il y a des subventions, des prêts, des crédits d'impôt qui peuvent être octroyés. C'est, par exemple, si on travaille avec un centre de recherche directement, ben on pourrait penser engager un chercheur en utilisant le programme du MITAX. Mais là, c'est ça, ça vient payer pour un salaire. Il y a le CRSNG aussi qui peut être un partenaire financier en partie pour certaines dépenses. Si on travaille avec une start-up qui n'a pas encore fait de première vente, ben il y a un programme du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui s'appelle Primo Adoptant, oui, qui peut venir soutenir financièrement. Fait que, oui, il y en a, mais c'est encore là une job de bras qui est plate à faire, mais mettons au Living Lab, nous, ça peut faire partie des services dans un cas comme celui où il y aurait besoin d'avoir un soutien financier. Bien là, nous, on peut faire cette job-là, d'aller chercher, voir s'il y a des programmes qui s'appliquent.
Puis avec le réseau, on est en train justement de documenter c'est quoi les différents programmes, savoir précisément pour les différents besoins là, qu'est-ce qui existe. Je pense que c'est un besoin aussi pour les producteurs d'avoir une seule et unique ressource pour savoir où trouver l'argent, comment puis pourquoi. Donc, c'est une job qu'on va faire au courant des prochains mois.
Puis, On en a parlé un peu tantôt, là, mais à Zone Actech, je pense que les deux, vous travaillez avec eux, c'est quoi? Parce que, bon, c'est quand même au niveau de... Ils sont dans la Nodière, là, fait que vous travaillez avec eux, puis c'est des acteurs assez importants aussi au niveau de l'innovation agricole. Comment est-ce que vous collaborez avec eux?
Ben, je dirais de façon très étroite. La Zone Actech font partie du réseau. Donc, ils sont là pour tout ce qui est la prise de décision, l'orientation des mandats. Ils nous aident aussi avec la veille parce qu'eux sont très connectés avec les chercheurs, les développeurs partout dans le monde. Alors, ils nous donnent un coup de main aussi pour identifier là, quelle machinerie là, peut être adéquate pour les producteurs maraîchers. Puis je dirais, eux font davantage là, le maillage au niveau des développeurs. Ils travaillent beaucoup à mettre en réseau les développeurs, les aider à trouver un marché. Nous, avec le réseau, on travaille au niveau des producteurs. Donc, chacun a un peu ses activités, mais entre les deux, il y a énormément de liens, de maillage puis de collaboration.
Dans le fond, le Living Lab, nous, on se base aussi beaucoup sur la Zone Actech pour tout ce qui est justement la recherche d'innovateurs, là, donc d'entreprises qui sont en développement technologique. Nous, on fait le côté accompagnement durant la phase de test. C'est sûr que nous, ben, on rayonne au-delà du secteur maraîcher, horticole, puis même au-delà du secteur agricole. Donc,
nous, on est à une autre échelle, puis on arrive vraiment avec des technologies qui sont propres à certains secteurs, que ce soit, comme je disais, les vignes, fraises, framboises, pommes, serres, maraîchers. Puis on essaie de creuser là, pour les technologies pour ça. Puis on fait pas de l'accompagnement qui est nécessairement un à un, comme vous faites. C'est peut-être ça aussi la différence, c'est qu'on essaie de travailler avec tous nos producteurs plutôt que faire des projets là, sur une entreprise précise.
OK. Mettons, un producteur pourrait pas dire « Moi, j'ai tel enjeu qui m'est spécifique à moi. Est-ce qu'on peut faire un projet? »
Ben, on peut le faire, on peut l'accompagner, mais pas de la même façon que vous. Mais ce qu'on va faire, par exemple, c'est organiser des vitrines. Tu sais, puis ici, on a par exemple un producteur qui a adopté une technologie. Ben, on va essayer d'encourager les autres producteurs à aller voir qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, c'est un peu ça. Hein? On parlait avec Pascal là. Tu sais, des fois, quand t'entends parler qu'une technologie fonctionne bien chez un voisin, chez un autre producteur, quand on peut la voir. Bien, tout ça, ça fait en sorte d'encourager l'adoption de cette technologie-là parce que ça diminue le risque perçu. Si elle fonctionne bien chez un autre producteur, pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionnerait pas bien chez nous? Alors, c'est un peu là-dessus qu'on travaille aussi, là, d'organiser ces occasions-là, de voir les technologies en action, puis pour les producteurs, de voir s'ils sont pertinentes pour leur propre entreprise.
Puis ça, c'est le fun parce qu'il n'y a pas ce côté-là nécessairement de compétition entre les producteurs. T'sais, généralement, ils sont souvent très ouverts à montrer ce qu'ils font sur leur ferme puis aider les autres producteurs à être plus productifs finalement.
Ah oui, puis c'est vraiment un projet à portée collective. On ne fait pas ça pour un producteur, pour un petit groupe de producteurs. On essaye aussi de trouver des solutions qui sont à la fois adoptables, qui peuvent être adoptées par des grands producteurs, des moyens ou même des plus petits. Là.
Qui est un peu aussi l'objectif peut-être des startups au niveau du Living Lab, c'est de dire ben on le développe avec ce producteur là, mais s'il peut s'adapter à d'autres aussi.
Oui, tout à fait. Dans le fond, l'avantage pour une startup là, qui développe une technologie, c'est de pouvoir la tester, mais après ça, la commercialiser à différentes autres entreprises. Là, c'est qu'elle soit pas nécessairement juste faite sur mesure pour une seule entreprise.
Qui est aussi, j'imagine, l'objectif des startups qui sont à la Zone Actech, dans le fond, qui sont incubées là-bas, là, de dire, bon, on développe la technologie pour le milieu le plus réel possible, puis après ça, ben, on peut l'adapter à plusieurs autres entreprises agricoles. Mmh. Puis, en terminant, Pascal, aurais-tu un conseil à donner à un producteur qui souhaite innover?
Ben, de s'assurer que vraiment c'est éprouvé, puis de faire ses recherches là, à travers d'autres producteurs, comme disait Catherine puis Noémie. C'est sûr qu'on est vraiment, on a vraiment confiance un envers l'autre. Les producteurs, tu ne veux pas nécessairement pas aider un de tes collègues. Puis, je pense que de partager ce que tu as amené tantôt, c'est bien important. Moi, je trouve ça fondamental de, entre nous, se partager, puis il me semble qu'en début de carrière, on avait tendance à vouloir garder nos secrets pour nous. Puis finalement, bien, avec l'avenue de tout ce qui est possibilité de téléphone qu'on a avec nous autres, aujourd'hui, le secret, bien, c'est juste parce que tu ne l'as pas cherché, parce que tu vas le trouver, c'est sûr. Donc, si tu es capable de faciliter, généralement, ça te revient. Ça, au bout de la fin de l'histoire, là, bien, tu vas retrouver ton aide. Puis de pas... Mais de t'assurer que tu te ramasses pas plus mal que tu étais avant de faire le move, là. Moi, c'est souvent ça qui va me retenir. Je me dis, tabarote. Le premier, là, c'est comme Noémie dit, d'aider, là, vraiment. Celui qui se lance dans le vide, le premier, ben, faut le protéger, lui, parce qu'on veut qu'il survive. Puis, c'est rendu que les coups sont tellement grands que ça peut vraiment te faire mal, là. Tu peux vraiment te blesser fortement assez pour pas te relever. Donc, ben, je pense de vraiment calculer son coup pour être sûr qu'on fait un bon move. puis se croiser les doigts. Faut oser un peu aussi. Là. Tu peux pas rester stagnant en espérant que quelqu'un va venir t'aider. Là. Faut que tu le fasses. Mais c'est tout le temps des assez grandes décisions.
Ça, c'est un conseil un peu à donner à tous les producteurs. Finalement, oser, il faut innover. Je pense qu'on est rendu là, puis c'est quelque chose qui est quand même assez primordial, là, surtout dans le milieu agricole.
Ben, il se fait beaucoup de choses, puis même l'avenue des productions de grandes cultures en bio ben, va amener beaucoup d'initiatives de sarclage de précision, ces trucs-là. Ben, ça a amené beaucoup de l'innovation, puis ça, ben, par contre, c'est bien encadré au niveau des fabricants puis des distributeurs, tu sais, qui sont établis. Ça facilite grandement. L'implantation se fait rapidement. Quand les gars, ils savent que ça va fonctionner, c'est pas long.
J'ai une question, mettons, pour faciliter le développement, pour en fait assurer que la technologie va rester accessible, qu'il va y avoir des pièces. Est-ce que, tu sais, la recommandation, ça serait qu'un équipementier bien établi reprenne la technologie puis comme l'intègre à son entreprise? Ça serait ça qui serait le plus souhaitable, selon toi?
Bien, je pense que quand tu regardes les manufacturiers, ils ont déjà des systèmes de satellites, ils ont déjà des conduites, ils ont déjà tout ce qui s'appelle le guidage satellite. Là. Je pense que tous les robots, là, qu'est-ce qu'on parle, ça passe par là.
Mm-hmm.
Fait que donc, celui qui a déjà sa propre flotte, soit de satellites ou soit d'accord avec les gens de GLONASS ou tout ce qui est les propriétaires de satellites, ça va quasiment falloir que ça passe par là.
Ça serait rassurant pour les producteurs qu'ils aillent chez leur concessionnaire puis la machine est là. Ils vont pas l'acheter directement dans une petite start-up.
C'est sûr, c'est plate à dire qu'il faut quand même commencer quelque part dans la vie. Mais rendu à des montants comme ça, là, c'est pas un case de cellulaire que tu essayes et tu l'aimes pas, tu le retournes à 30$. Là.
Mm-hmm.
Quand tu es à plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est là que tu veux vraiment que ça fonctionne. Soit que l'équipementier se joigne, mais généralement, il achète le brevet pour vraiment le développer, continuer à le développer et l'amener commercial. Moi, je pense que c'est vraiment une des avenues qu'il faudrait regarder.
Dans le désherbage puis aussi la récolte, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est les services à forfait. C'est pour diminuer le risque là, pour le producteur, c'est ben, je vais venir te la faire, là, la récolte. Puis à ce moment-là, ben, tu me paieras à la pièce là, en fonction du nombre de brocolis, hein, pour reprendre l'exemple du brocoli qui va avoir été récolté. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'il y a moins d'argent à mettre dès le départ. Puis on paye quand ça fonctionne. Et puis également, ben, c'est ça, les coûts d'acquisition sont beaucoup plus faibles là, et le risque financier est réduit. Fait que il y a aussi des solutions, je dirais, plus économiques là, à regarder pour s'assurer que tous les producteurs aient accès à des nouvelles technologies.
Donc, un producteur qui voudrait innover, Catherine, Noémie, comment est-ce qu'il peut vous contacter ou vous joindre pour avoir plus d'informations?
Ben, pour nous, à la PMQ, il peut certainement nous appeler ou encore nous écrire. Donc, je peux peut-être laisser mon adresse courriel là, si les gens veulent m'écrire ou poser des questions sur qu'est-ce qui est fait chez nous. Donc, c'est C. Lessard, comme Catherine Lessard, @commercial@pmquebec.com. Sinon, on a un site Internet. C'est très facile de nous googler puis de trouver notre numéro de téléphone et puis nos coordonnées.
Oui, pareillement pour le Living Lab Lanaudière, dans le fond, sur Internet, c'est livinglablanaudière.com. Puis, on est aussi disponible par courriel, donc info@livinglablanaudière.com. Tout ça va arriver à la même place.
Bien, je vous remercie beaucoup pour cet épisode. C'est très intéressant. Je suis certaine que les producteurs vont pouvoir en retirer beaucoup, beaucoup de bien.
Merci, Adèle.
Merci.
Merci.
Le balado Les Prods est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au balado sur votre plateforme d'écoute préférée.